Mais je pense dans ce cas-ci que Joe Maddon, il l'a raté. Là. Il l'a raté à ce niveau-là, mais il a le droit à son opinion.
Marc, tu trouves pas ça curieux que ça vienne d'un gars comme Joe Maddon, qui pourtant a été pendant longtemps dans une des organisations les plus avant-gardistes du baseball majeur, des défenses adaptées, l'ouvreur. C'est lui qui était le gérant des Rays quand tout ça est arrivé.
En jeu! Deuxième prise, compte complet.
Le balado compte complet est présenté par Don Match à Boucherville et au Saguenay. Votre centre d'entraînement et boutique de baseball avec cage de frappeur intérieur et lance-balles. Fier partenaire de votre passion. Et Lester's, maître du smoke meat et des hot dogs depuis 1931. Voici vos animateurs, Alain Huzeau et Marc Griffin.
Nous vous souhaitons la bienvenue à Compte Complet, c'est notre dernier de l'année 2025. Alain Huzeau en compagnie de Marc Griffin. On va parler évidemment du marché des joueurs autonomes tout de suite. On rentre dans le vif du sujet, Marc. Depuis notre dernier balado, ça fait une dizaine de jours, ce sont les releveurs. En fait, depuis le début du marché des joueurs autonomes, ce sont eux qui ont attiré l'attention. On a déjà parlé de Diaz avec les Dodgers, Rogers avec les Blue Jays de Toronto. Marc, c'est un lanceur peu conventionnel. C'est lui qui a la moins bonne balle rapide, disons-le, de tous les lanceurs du baseball majeur. Il a une grande qualité, c'est qu'il garde la balle dans le stade.
Oui, puis je vais dire un profil très différent des autres releveurs. Tu sais, on regarde des équipes qui vont se chercher 5, 6 releveurs à 95, 16 000 à l'heure, puis on lance fort avec des balles à effet. Alors, ce que c'est pas mauvais de varier de temps en temps? Tu sais, ça dépend de l'adversaire. Mais dans le cas de Rogers, bon, lance pas très fort, pas une tonne de retrait sur des prises, Alain, mais tu l'as bien dit, garde la balle non seulement à l'intérieur du stade, mais les droitiers ils ont beaucoup d'ennui. Puis évidemment, c'est le lanceur où la balle sort le plus bas, là, quand il est près du sol. Mm-hmm. Il a l'impression qu'il va aller même frotter le sol lorsqu'il laisse aller la balle. Et ce qui est assez intéressant, c'est que du côté des Blue Jays de Toronto, c'est que Trey Savage est le lanceur qui probablement lance, qui laisse aller la balle le plus haut. On sait qu'il va très, très haut. Son action de bras, là, c'est très, très haut. Alors, tu imagines un Yacevich qui amorce un match. Puis là, tu es au bâton. Deux, trois présences qui ont dit Yacevich. Puis là, on t'amène Rogers. Alors, là, ça pourrait poser quelques ennuis, quelques défis aux frappeurs de voir une balle sortir très, très haut, là, soudainement, très, très près du sol. Alors, mais j'haïs pas, Alain. Beaucoup d'expérience. C'est un gars qui va être capable de partager son expérience. Mais le style est différent. Ça, j'aime ça. C'est comme si t'arrives, on a 9 frappeurs, puis t'as 9 frappeurs pareils. Tu sais, ça marcherait pas, là. T'as besoin d'un gars qui met des balles en jeu, des gars qui frappent avec un peu de puissance. C'est la même chose au niveau des lanceurs. Donc, j'haïs pas cette mise sous contrôle-là de part des Blue Jays.
Écoute, un petit parallèle, Marc, avec, la fin des années 70, en 80, en fait, la saison 80, les Astros de Houston avaient 2 partants, Nolan Ryan et J.R. Richard. Probablement les meilleurs rapides dans le baseball majeur à ce moment-là, puis tu suivais avec Joni Crow. Et Joni Crow qui arrivait avec sa balle papillon.
Ouais. Tu sais? Ça pouvait, ouais. J'imagine que l'adaptation ne devait pas être évidente.
T'sais, enfin. Marc, parlant de releveur, les Braves ont fait le plein. On a ramené Iglesias. On n'aurait pas juré ça en début de saison. Iglesias, que ça a été très mauvais en début de campagne, puis finalement, au cours des 2 derniers mois, il était un des meilleurs releveurs de la Ligue nationale, le releveur du mois en août. Et on a ajouté Suarez, qui était avec les Padres de San Diego. Donc, on renforce quand même un aspect chez les Braves d'Atlanta. On a beaucoup d'argent déjà qu'on va dépenser, qui est assuré envers nos joueurs qu'on a présentement. Beaucoup de contrats à long terme. Je ne sais pas quelle est la flexibilité financière des Braves d'Atlanta, mais en relève, en tout cas, pour la 8e et la 9e, on a réglé ça.
Oui, ça a été un point négatif l'année passée. Tu as parlé du mois d'août. Évidemment, au Glazer, c'était un peu meilleur, mais on voulait combler quelque chose du côté des Braves à ce niveau-là, et on le fait. Et tu as raison de dire, Alain, que les releveurs, ça a été, on a l'impression que ça a été, on va essayer de régler cet aspect-là, puis je parle pas juste des Braves, là.
Ouais.
Tu regardes les Tigers avec Finnegan, puis on est allé chercher, mis sous contrat, Kenley Jansen. Il y en a d'autres aussi, donc, du côté des Braves, J'aille pas de ça, moi. On le voit, Alain, dans le baseball moderne, à quel point tu as besoin, en fin de match, là, d'avoir ces gars-là dominants. Les deux peuvent s'entraider. Ça fait une très bonne paire en fin de rencontre. Mm-hmm. Les Braves, ça peut être une petite carte cachée, Alain, dans la division Est de la Ligue nationale. T'sais, on n'a pas joué comme on aurait dû jouer au cours des deux dernières années. Il y a encore beaucoup de talent dans cette équipe-là. Strider qui revient, on sait l'année passée, revenu de l'opération de type Tommy John, mais pourrait redevenir le lanceur dominant. Je n'aille pas ce que je vois au Monticule chercher les partants. T'ajoutes donc un releveur comme Suarez qui vient accompagner Iglesias. Il y a quelque chose qu'il va falloir commencer à surveiller un petit peu plus les Braves d'Atlanta. Mm-hmm. Chose certaine, si on voulait un bras de qualité en fin de rencontre, dans le marché actuel, il fallait y aller très tôt. Puis ce sont effectivement ces releveurs-là qui semblent avoir à la cote actuellement. Et Mantoplos voulait pas en perdre un, donc et c'est s'assurer d'avoir un Suarez.
Dans le fond, c'est de prendre de l'avance, Marc. On arrive au mois de juillet, puis c'est la course au bras. Et pourquoi pas le faire, dans le fond, dans l'entre-saison pour les équipes de pointe? Là. Tu comprends? Pas être dans le trouble et... C'est des bras de qualité là, qui ont signé des contrats.
Oui, effectivement. Mais je regarde les pauvres Padres qui ont perdu quand même quelques bras là, dans tout ça. Il y en a encore une coupe, ça, si tu dis en passant. Là. Mais ça reste que, je veux dire, chaque équipe a ses besoins, mais c'est sûr qu'en relève, il y a toujours de l'espace à amélioration. Peu importe là, votre personnel, c'est très rare qu'on va dire qu'une équipe, eux autres, là, ils ont tout leur personnel. C'est très rare qu'on voit ça. Donc, un bras de qualité en fin de rencontre, ça vaut quand même un certain prix et les Braves étaient prêts à le payer.
Marc, on va rester dans l'Est de la Nationale avec les Mets de New York. On a embauché Polanco. Ça va bouger. Chez les Mets de New York, on n'a pas terminé encore. Là, on a réglé le problème de la relève là aussi. Williams et Weaver qui s'en vont là. Mais là, Polanco arrive. On a perdu Alonso. Marc, il y a un surplus de joueurs d'avant-champ présentement. Là, Polanco, il s'en va où? C'est un joueur de deuxième but, pas très bon en défense. Et là, tu as Beatty, tu as Vientos, tu as Mauricio. Mauricio, à un moment donné, il va falloir lui donner sa chance. Je pourrais ajouter McNeil, mais McNeil, il y aura pas, probablement qu'il s'en va dans le champ. Donc, Marc, moi, j'ai l'impression que les Mets de New York vont être actifs, pas juste sur le marché des joueurs autonomes, mais il y a des transactions. Il y a juste Nolan McLean là, qui va rester avec les Mets. En tout cas, il va en avoir plus. Mais si je calcule ceux qui n'ont pas des contrats à long terme, comme Lindor, il n'y a pas d'intouchable. On l'a mentionné.
C'est sûr que ce qu'on voit présentement des Mets, ça ne sera pas le résultat final lorsqu'on va arriver au début de la saison. Parce que tu l'as dit. Bon, tu fais jouer Polanco. Rappelez-vous qu'il y a eu la transaction de Marcus Semien. Alors, Semien, tu le mets au deuxième parce que tu as Lindor à l'Areco. Donc, Polanco, et tu l'as dit, sa force n'est pas nécessairement en défense. Donc, est-ce qu'il devient le frappeur de choix? Un frappeur, on sait que c'est un frappeur ambidextre. En tout cas, c'est certes quelque chose. McNeil, tu peux pas le mettre à l'avant-champ compte tenu de tous les joueurs que tu as mentionnés, effectivement. Non, c'est sûr que ça va bouger. Il y a un trou chancante en ce moment. Puis écoutez, faut pas se mélanger non plus. Là. Si vous arrivez au City Field, pensez pas que vous êtes au Yankee Stadium si vous entendez que Weaver et Williams sont en relève. Là. T'sais, ça, c'est... Mm-hmm. Fait que, écoute, les Mets, c'est intéressant. Évidemment, Juan Soto est là, Lindor est là. J'espère que l'esprit d'équipe va être bonne parce que ça semblait être un petit peu difficile en fin de saison. Mais là, il y a des gros noms qui sont partis. Là. Il y a des gars qui étaient là depuis longtemps. Est-ce qu'on veut faire un vent de fraîcheur dans ce vestiaire-là? Je dis pas qu'il y avait un problème avec les gars qui sont partis, là. Mais ça reste que là, on a des vétérans qui étaient là depuis longtemps, qui faisaient partie des meubles, qui sont partis. Alors là, c'est comme si un petit vent de renouveau, mais c'est vieillissant. T'sais, Semien ne se rajeunit pas, Polanco non plus. Alors, ça reste à voir. Mais les Mets, c'est toujours un mystère, mais je suis convaincu comme toi, Alain, c'est pas fini du tout, là.
Ouais. Écoute, moi, je pense qu'il va se passer de quelque chose de ce côté-là. C'est le partant numéro un, je pense, qu'on veut aller chercher là, chez les Mets de New York. Et c'est assez clair là, ce qu'on a vu avec au cours des dernières années. Marc, ton partant numéro un, c'est lui qui va te mener. Regarde les Red Sox de Boston, la venue de Crochet, ce que ça a amené comme dynamique. Les Phillies, ils l'ont avec Zach Wheeler, tu comprends? Puis les Braves, quand Chris Sale est là, regarde, ça change l'équipe. Les Mets l'ont pas. Peut-être 5 heures, c'est ce gars-là, mais il faudrait qu'il lance une saison complète. On ne l'a pas. Moi, je pense que c'est là. Tu sais, le nom de Skubal a été mentionné.
Non, mais là, Skubal, ça serait via transaction. Est-ce qu'un Framber Valdez serait la solution?
Écoute, on pourra en parler là, des joueurs disponibles tantôt, là, mais tu sais...
Je veux dire, à part Valdez, là, je pense que tu parles d'un lanceur numéro 1.
Ben oui.
Il n'y en a pas une tonne. Là, je pense pas qu'on va considérer un Nick Martinez comme un lanceur numéro 1. Là, donc,
non.
Tu sais, le fait que... Bon. Puis moi, je pense, personnellement, je pense pas que Skubo va quitter
Détroit,
mais ça, c'est mon opinion personnelle.
Écoute, si le directeur général a mentionné, il n'a pas dit non. Il dit, je serais fou de ne pas écouter.
C'est c'est clair. Moi, j'écouterais aussi, là, mais je veux dire, c'était quand même le meilleur lanceur au monde entre les rangs. Tu viens d'aller chercher deux releveurs, tu t'es amélioré, tu as fait des séries. Non, écoute, allez, go, on verra bien.
White Sox de Chicago, Marc, surprise, Munetaka Murakami, frappeur de puissance, 56 coups de circuit. En 2022, l'année passée, il était en voie de dépasser le rythme là, de 22 coups de circuit en 50aine de matchs. C'est de la puissance, Marc. Comment ça se fait que ce gars-là s'est contenté d'un contrat de 2 ans avec les White Sox de Chicago? On ne voit pas les matchs, Marc. Il faut le préciser, dans les deux ligues japonaises majeures, la raison, c'est qu'à un moment donné, il faut dormir. Les matchs avec le décalage, ce serait pas facile. Donc, les rapports qu'on a, c'est que, oui, de la puissance, il en a, sauf que c'est à peu près la seule qualité qu'il a. C'est qu'en défense, il n'y a pas vraiment de place. Donc, c'est pas un joueur complet. Tu sais, même comparé à Suzuki avec les Cubs de Chicago. Donc, il était limité dans ce qu'il pouvait apporter. Je sais pas quel est ce que t'en penses, Marc, mais...
Premièrement, Alain, il n'est pas avec les Dodgers. Fait que ça, c'est peut-être une pas pire nouvelle, là, dans le sens que bon. Mm-hmm. Mais en même temps, que bon, la puissance pure, il l'a. Mais on a lancé les dés du côté des White Sox. On voulait aller chercher un coup de bâton qu'allait nous aider. On n'a pas payé trop cher. Tu as parlé du contrat de 2 ans. T'sais, on n'est pas pris avec un long contrat alors qu'on ne sait pas trop ce qui va se passer parce qu'il y a toujours une crainte hein, des joueurs asiatiques. Est-ce qu'il va s'adapter? Est-ce qu'il va faire ci? Moi, la seule chose que j'aime moins dans son cas, puis on va lui donner la chance, évidemment, peut-être de s'adapter, c'est qu'Alain, lorsqu'on lance 93, 94 000 à l'heure et plus, c'est pas mal plus difficile dans son cas. Et on sait qu'en Asie, il y a beaucoup de lanceurs de chmouille, beaucoup de lanceurs de balles à effet. Tout ça, là, il n'y a aucun problème. Il frappe des balles, puis j'ai dit puissance pure, le contact est là. Donc, son vrai défi, Alain, ça va être la puissance des lancers du baseball majeur. Est-ce qu'il va être capable de s'adapter? Et la réponse peut être oui, là. Parce qu'il n'a pas vu nécessairement une tonne. C'est comme un frappeur gaucher qui voit un lanceur gaucher une fois ou 10 jours. C'est sûr que ça va prendre du temps peut-être avant de t'adapter face à un lanceur gaucher. Alors, est-ce que lui va être capable de le faire? Les White Sox, comme je l'ai dit, qui ont, soit dit en passant, commencent à s'améliorer drôlement. Hein? Moi, je n'haïs pas du tout ce que je vois du côté des White Sox. La nouvelle organisation, la nouvelle direction baseball, là, j'aime leur philosophie. En tout cas, tout ça pour dire que c'est intéressant. Moi, je trouve que ça valait la peine de l'essayer, mais il y a un risque. Je pense qu'il va falloir donner sa chance. Un gars, s'il arrive au camp d'entraînement 0 à 15, puis 15 retraits sur des prises, on peut peut-être s'inquiéter un peu, mais on va quand même y donner sa chance. Le gars a du talent, on a fait nos devoirs, et il n'est pas avec les Dodgers. Donc, il y a quand même pas mal de points qui sont positifs là, dans ce cas-ci.
Oui, puis il faut faire attention aux premières impressions, Marc, dans le sens où, rappelle-toi, Marc, Yoon Soo Kim, tu te rappelles de son histoire?
Oui.
Avec les Orioles de Baltimore. Camp d'entraînement affreux à son arrivée avec les Orioles, qu'il l'envoie dans les mineurs. Non, mon contrat est du baseball majeur, je m'en vais pas, moi, jouer dans la Ligue internationale. C'était pas fait d'amis. Puis finalement, il a réussi à s'ajuster.
Ouais.
On l'a vu aux Olympiques, Marc. Il a une carrière extraordinaire en Corée. Moi, ce qui m'avait impressionné, honnêtement, de sa part, c'est sa coordination qui était exceptionnelle. Il pouvait être tout croche, puis il était capable de frapper la balle d'aplomb quand même. J'ai pas vu beaucoup de frappeurs, Marc, être capable de s'ajuster de cette façon-là. Puis il n'était pas à son apogée lorsqu'on l'a vu en 2021, Marc. Tout ça pour te dire que la première impression, il faut se donner du temps un peu pour l'évaluer comme il faut. Là.
Bon, écoute, je ne peux pas être plus d'accord avec toi, Alain. Puis surtout, ouais, comme je l'ai dit, ça, la puissance pure, ça ne s'enseigne pas vraiment. Il y, ouais, y a des gars, là, tu arrives près d'une cage de frappeur, puis tu entends le son, là, tu sais qu'eux autres, ils l'ont. Tu peux développer, évidemment, ces choses-là. Mais à un moment donné, il y a certaines choses où c'est naturel. Et dans ce cas-ci, mm-hmm, c'est une puissance qui est pure, qui est naturelle. À la, ouais, Austin Riley.
Tu sais, oui, c'est ça.
Bon, alors, mais maintenant, évidemment, il faut être capable de se coordonner. Tu parles de coordination. Il faut se coordonner avec des balles rapides. Il faut être rapide. Bon. Alors ça va être son plus grand défi. Mais je suis convaincu qu'on va lui donner une belle chance de se faire valoir.
Oui. C'est temps de la question de la semaine présentée par Sylmar Autoville. C'est votre détaillant de pneus de voiture et de camions classiques et antiques. Je vous invite à consulter le www.sylmar.ca. C'est bien simple. Dans le temps des fêtes, qu'est-ce qu'on souhaite dans le baseball majeur pour la saison 2026? Donc, on vous invite à aller sur notre page Facebook, facebook.com/comptecomplet/balado, aussi sur notre site comptecomplet.com.
Pour un barbecue réussi, rien ne fait l'unanimité comme un bon hot dog Lester's. Des saucisses parfaitement assaisonnées et fumées à la perfection. En plus, les hot dog Lester's sont préparés au Québec par des gens d'ici. Cet été, gâtez-vous all dress avec Lester's.
Alain, c'est le moment de parler de notre partenaire principal, le plan de match. On les remercie évidemment, ils sont là depuis le début. Belle boutique, il y en a deux, évidemment, une au Saguenay, l'autre à Boucherville. À Boucherville, il y a aussi évidemment, des cages intérieures, des cours privés. Vous dites leur boutique en ligne également, c'est la meilleure façon de se retrouver à acheter nos prochains équipements. On sait que la saison, bon, je sais que c'est le mois de décembre, là, mais les camps d'entraînement vont commencer en février, Alain. Ils vont commencer à s'équiper, donc boutiqueplandematch.com. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur nos partenaires ou sur notre balado compte complet, bien, visitez notre site Internet qui est le www.comptecomplet.com.
Dans moins de 2 mois, mon cher Marc. Dans 6 semaines, en fait, ça commence déjà ces camps d'entraînement. On va parler des joueurs toujours disponibles. Et là, j'en ai retenu 6 parce qu'il y en a pas mal plus, là. Mais évidemment, les 4 gros noms, les joueurs de position. Tucker, Bregman, Bichette, Bellinger. Je pense qu'on peut s'entendre là-dessus. Il y a dans deux cas, Bellinger, je pense, voudrait revenir à New York et les Yankees. On l'a mentionné. C'est le dossier Gresham qui a fait en sorte que je pense que les Yankees sont pris, là.
Moi, j'ai toujours pensé ça. J'ai toujours pensé que lorsque Gresham a accepté l'offre qualificative, on l'a fait comme quoi. Mais bon, c'est comme ça. Mais un peu comme on a parlé la dernière fois, Alain, qu'est-ce qui retarde ça? Qu'est-ce qui fait? Tu sais, Bellinger, ça semble être effectivement là, un retour avec les Yankees. Mais qu'est-ce qui fait qu'on retarde? On va être rendu au 1er janvier. Dans le cas de Bichette, je suis convaincu que les Blue Jays regardent aussi, dans le cas de Kyle Tucker, là, je pense que c'est assez évident de ce côté-là. Et Bichette voulait faire le tour. Mais là, ça fait... Ouais. La saison est terminée depuis un petit bout de temps. On arrive dans une... Ça fait quelques semaines que le marché des joueurs autonomes est ouvert. Là, on a entendu dire que là, Bichette était prêt à jouer au deuxième. Bichette a toujours été prêt à jouer au deuxième, Alain, selon moi.
Ben oui.
C'est pas une nouvelle, cette affaire-là. Alors... Je me demande, est-ce que la priorité chez les Blue Jays, c'est de dire on veut vraiment Tucker? Et c'est pour ça qu'on attend de faire une offre avec Bo Bichette. Est-ce que Bichette attend l'offre des Blue Jays? Je sais pas, mais je me suis toujours demandé là, qu'est-ce qu'il fait là, surtout des joueurs qui jouent pour une équipe comme Bellinger était pour les Yankees. Ça semble être le cas où les deux veulent s'entendre à nouveau, mais ça retarde. Puis je me demande, qu'est-ce qui fait que ça retarde tant que ça? Qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas capable de... Bon, en cas de Bregman, c'est un gars qui est en demande pas mal, mais, tu sais, ça serait une seule... Tu sais, je pense qu'avec les Red Sox, on s'entend que c'est un bon fit, là. Fait que, tu sais, est-ce que ce sont les joueurs, est-ce que ce sont les agents qui disent, un instant, là, on a encore 6-7 équipes, on va chercher un autre 10 millions de plus. Je sais pas, mais à un moment donné, il va falloir que ça débloque, là.
C'est le nombre d'années, Marc. Moi, Tucker, c'est l'exception, là, parce que je pense son rendement à l'attaque qui est supérieur aux autres un peu. Mais je pense surtout dans le cas de Bregman, c'est le nombre d'années. Dans le cas de Bichette, son gant, Marc, fait en sorte que l'impression que ça laisse un doute.
Ouais, mais tu sais, Alain, il est pas si pire que ça. Je comprends que c'est pas ton meilleur joueur d'arrêt court, Alain, mais c'est pas, tu sais, je veux dire, on mettra pas Bichette au deuxième pour faire chaque balle frappée. Ben non, tu sais, c'est un bon athlète, là. C'est un gars qui est capable de s'adapter, mais là, si tu me dis, il veut un contrat de 10 ans, là, je vais comprendre ce que tu me dis.
Ouais.
Mais, tu sais, Bichette et Tucker, ce sont deux jeunes joueurs, là, dans le marché des joueurs autonomes. Peut-être que c'est le nombre d'années. Ouais. En fait, certainement dans le cas d'un gars comme Bregman ou Real Muto ou des gars de même qui sont plus âgés, ça, je suis 100% d'accord avec toi. T'sais. Est-ce qu'on paye pour les deux prochaines années parce qu'on sait qu'on a un rendement adéquat, mais il va falloir payer pour les 4-5 prochaines? T'sais.
Ouais.
Mais chose certaine, Alain, ce qui est le fun, c'est que c'est des sacrés bons joueurs qui peuvent changer l'allure d'une formation. Là.
Ouais.
Quand Tucker s'ajoute, que ce soit aux Blue Jays ou ailleurs, t'ajoutes un Bregman là, qui est peu importe où. Là, mettons, Bregman s'en va avec les Tigers. Ben là, Scubo s'en va nulle part, puis on s'en va jusqu'au bout. Là, tu comprends? Fait que c'est des gars qui peuvent changer vraiment des formations. Alors que je pense que les Red Sox vont être encore très actifs sur le marché. Mais est-ce que ça va être sur le marché des joueurs autonomes? Est-ce que c'est via transaction?
Oui.
Peut-être on verra bien.
Partant, Marc. Tu l'as mentionné tantôt, Framber Valdez. Après ça, tu tombes. Tu as Suarez et Nick Martinez après. Valdez de loin est celui, Marc. Si tu veux un partant de premier plan qui pourrait être ton gars, la fin de la saison, est-ce que ça a rendu des équipes nerveuses? On a déjà élaboré là-dessus, Marc. Je sais pas quoi penser dans le cas de Framber Valdez. Il a pas été blessé, il prend son tour. Tu veux des gars qui gardent la balle dans le stade. Regarde, c'est le meilleur lanceur partant de balle tombante, ou à peu près avec Logan Webb de San Francisco. Donc, il y a beaucoup d'atouts dans son jeu. Là, est-ce qu'on veut des garanties dans son cas? Moi, j'étais une équipe, là, j'ai dit, regarde, une clause là, de discipline dans mon contrat. Je sais que les agents ne veulent rien savoir, les joueurs ont le gros bout du bâton, mais dans le baseball d'aujourd'hui, Marc, compte tenu d'un paquet de choses qu'on entend, qu'on ne peut pas vérifier, mais un vestiaire pollué, là, ça peut affecter une équipe. T'as-tu le coup de ça?
Oui. Alain, c'est clair que c'est ça le problème dans le cas de Valdez.
Mm-hmm.
T'en es
convaincu.
Moi, je suis convaincu. Tu sais, Alain, je parle à beaucoup de monde, que ce soit des dépisteurs. On parle à Alex Agostino, par exemple, qui est un cross-checker. J'ai visité plusieurs universités dans les dernières semaines avec mes enfants, parler aux coachs, tout ça. Écoute, je veux dire, l'attitude est quasiment, sinon rendue, l'élément numéro un. Est-ce que tu es une bonne personne, puis tu vas nous aider? Est-ce que tu as le profil du joueur qu'on veut dans notre organisation? C'est-à-dire un gars qui, tu sais, qui... C'est pas qu'il dérange pas, mais qui est, tu sais, qui est focusé aux bonnes places. Et moi, je suis convaincu qu'en cas de Valdez, il est barré dans bien des équipes.
Ouais.
Et le problème avec lui, c'est que s'il est barré avec les équipes qui ont beaucoup de sous, ça lui donne pas mal moins d'options. Il va lancer dans le baseball majeur. Il y a quelqu'un qui va l'embaucher, là, absolument. Là.
Ouais.
Puis l'équipe va peut-être avoir, tu sais, sur le terrain, va avoir une meilleure équipe avec un Valdez en rotation. Mais moi, je suis convaincu, Alain. Je le vois, je le sens, je le lis, je regarde. On n'en veut plus des gars à problème. Puis, tu sais, on parle beaucoup de famille. Dans chaque organisation, famille. Tu sais, on regarde. Je veux pas dire que les Mets avaient des problèmes avec Alonso ou peu importe, mais on voulait changer l'air. On voulait ouvrir les fenêtres, là, pour faire rentrer une nouvelle l'air fraîche. C'est un petit peu ça qui se passe avec selon moi. Mm-hmm. Alors, on verra. Puis là, ben, peut-être que lui est déçu des offres.
Mm-hmm.
Peut-être que les Astros vont être intéressés à l'avoir à nouveau, les Astros qui... Il en aurait besoin là, d'un gars comme Valdez. Moi, je suis convaincu que c'est ça. Non, ce qui me surprend, c'est Suarez. Ça me surprend que ce gars-là n'ait pas encore été mis sous contrat. Parce que tu sais, rapidement, Dylan Cease a été signé. Là, tu vas me dire que c'est peut-être au-dessus du marché, mais garde, les Blue Jays tenaient à l'avoir. Mais après ça, là, après Suarez puis Valdez, Alain, là.
Ça tombe.
Yeah. Des Giolito, des Nick Martinez, c'est pas mauvais, là, mais on s'entend que ce n'est pas des 1 et 2. Là.
Le plus intriguant du groupe, je trouve, dans ceux qui suivent, c'est Zach Gallen.
Ouais. Mais Zach Gallen, ça a été deux années. Tu sais, la moyenne de points mérités est un petit peu plus élevée.
Ouais. Oh que oui.
Et alors, bon. Puis là, tu vas me dire, tu sais, Dylan Cease n'avait pas la meilleure moyenne de points médians non plus, mais
ouais.
Tu payes combien un lanceur qui a une moyenne de points médians de 4,20, là? Non, mais c'est super.
Ouais. Alors,
fait que c'est ça. Fait que.
OK.
Mais il y a quand même des gars de qualité là-dedans. Là.
Je regarde
la liste des gars disponibles, là, mais je me dis, bon. Tu sais, Jordan Montgomery, il a juste 32 ans en passant. Là. Tu vas me dire que ça a été bon, deux années difficiles.
Oui.
Mais est-ce que tu prends une chance avec un gars de même? En tout cas, ça pour dire que c'est le fun parce que ça va nous donner pas mal de jus au cours des prochaines semaines.
Il ne retournera pas en Arizona.
Non.
Donc, on tombe à 29 équipes avec Jordan Montgomery. ça, c'est clair. En relève, Marc, Pete Fairbanks. Une très bonne fin de saison. Moi, je suis convaincu qu'il est sollicité. Là encore, est-ce que c'est le nombre d'années? Parce que c'est de loin. Sean Newcomb, dépendant de si tu es content de l'échantillon qu'il a donné avec les Aces au cours de la dernière campagne, c'est une patte gauche. C'est un ancien joueur de première ronde. Donc, lui, c'est refait un nom et une carrière. Je pense qu'il va signer un contrat du baseball majeur. Ça veut savoir combien de temps. Mais si on parle de relevant numéro 1, Top 8 Fairbanks. Son nom est associé aux Blue Jays de Toronto. Moi, je ne serais pas surpris qu'on aille de ce côté-là. Fairbanks, écoute, il y a de l'étoffe. C'est pas compliqué. Quand Marc est dans une bonne séquence, là, c'est un des bons.
Oui, non, effectivement. Moi, je pense que c'est un gars qui. Tu sais, sais-tu quoi? Avec un changement d'air, ça lui ferait du bien. Il était très, très, très bon avec les Rays, très longtemps. Très bonne relation avec Kevin Cash. Mais là, je pense que c'est le temps de partir à autre chose. Puis, effectivement, l'équipe va être meilleure. Une équipe va être meilleure avec lui.
Ouais.
Moi, je suis convaincu. Mais encore une fois, qu'est-ce qui fait qu'il n'est pas signé encore? Ben, c'est peut-être effectivement le nombre d'années. C'est peut-être le ci, c'est peut-être le ça. Bon. Mais c'est un bras de qualité. Moi, je vais te dire une chose. C'est une balle distante de la sorte qui est appuyée par une balle rapide avec autant de vie, qui bouge. C'est une très, très belle option. Très, très belle option.
On parle de Fairbanks, des Rays, Marc. Sur le marché des transactions, on a été actifs. Je pense déjà dans des prédictions Tampa Bay. La plupart vont les choisir cinquième. Là, on a échangé Shane Baz. Les Orioles ont fait le même genre de pari que les Blue Jays avec Dylan Cease. C'est pas compliqué, là. On a acquis quelqu'un qui a de l'étoffe. Ces chiffres sont peut-être pas aussi spectaculaires qu'on l'aurait voulu, mais c'est un fait que potentiel, c'est ça qu'on est allé chercher avec Shane Baz, comme les Jays l'ont fait avec Dylan Cease. Là, on a échangé Brandon Lau, dernière année de contrat, s'en va avec les Pirates de Pittsburgh qui, eux, ajoutent un autre bâton. Ça commence à en faire quelques-uns chez les Pirates. Mais du côté des Rays, Marc, ce qu'on est en train de faire, tu as l'impression qu'on se prépare pour 2028. Je ne parle même pas de 2027, parce que 2027, écoute, je ne sais pas si. On sait qu'il risque d'avoir un conflit de travail. C'est pas compliqué. Puis j'ai l'impression que les Rays regardent en avant de ça. Ils se préparent, moi, pour 2028.
Ben, les Rays ont une nouvelle haute direction, là, des nouveaux propriétaires.
Ouais.
On est encore en train d'essayer d'avoir un nouveau stade. C'est pas toujours évident, mais je pense qu'on est effectivement en train de se refaire un peu pour arriver en 2028, 2029, peut-être avec une nouvelle façon de faire pour qu'on puisse finalement entrer dans un nouveau stade éventuellement. C'est non négligeable, ce genre d'information-là, Alain. T'sais, une organisation, c'est pas juste sur le terrain de baseball. T'sais, donc, puis des joueurs qui arrivent un an avant l'autonomie, Alain, ça reste pas habituellement avec les Rays. C'est depuis longtemps. Dans le cas de Brandon Lau, ça a été ça. Et je pense qu'on ne pouvait pas dire non avec l'offre des Orioles du côté de base. Donc, puis tu sais, Alain, chaque fois que tu fais une transaction avec les Rays, tu dois te poser des questions quand même. Compte tenu des succès qu'ils ont eu en transaction. Alors, écoute, moi, je trouve que... Mais effectivement, là, si tu me demandes mes prédictions de la division Est de l'Américaine aujourd'hui, c'est sûr que là, les Rays ne seraient pas en première place. Même si c'est pas mauvais du tout encore, ils vont être compétitifs. Mais là, ça peut être un petit peu plus difficile. On verra bien. Mais ils sont actifs, Alain. Ils ont un plan.
Ouais.
C'est on ne regarde pas la parade passer, puis on se dit, à un moment donné, on va se réveiller. Alors, on a un plan, on bouge, on va chercher, tu sais, on se débarrasse d'une couple de gars qu'on croit moins un peu ou qui allait coûter beaucoup trop cher, puis on avance. Alors, ça, on va toujours respecter ça.
Ça va être difficile de marquer des points. Je pense que j'ai regardé le personnel de lanceurs là, dans le 40, là, puis ça lance fort. Là. Il n'y a pas ben de lanceurs en bas de 95 là-dedans, mais à part Caminero puis Aranda, là, pas Cedric Mullins qui va ajouter du punch à cette attaque-là, je pense, du côté de Tampa Bay, je pense que ça va être difficile. Marc, dans Les 24 dernières heures, les Red Sox ont ajouté un bâton. On en cherchait un comme Trairan. C'est ce qu'on a notre premier but, là?
Bien, de toute évidence, tu sais, je sais que les Cards ont envoyé un bon montant d'argent aussi pour couvrir une partie du salaire. Mais, tu sais, on a quand même un frappeur professionnel. Puis, je pense qu'il peut quand même. C'est intéressant, là. Je trouve que le profil de Contreras pour le Fenway Park est pas pire. Donc, c'est sûr que tu vois un premier but, tu penses à un grand premier but qui frappe avec puissance, puis tout ça. Contreras, on sait, est un ancien receveur qui peut plus agir ainsi, donc ça va au premier but. Mais, tu sais, c'est un gars qui aime avoir les réflecteurs sur lui. Puis je sais pas, j'ai l'impression qu'à Boston, ça peut le motiver. C'est un bon frappeur, là. C'est un bon frappeur. Ouais. Mais j'ai quand même hâte de voir si ça va être un bon mariage avec. Il y a un caractère, notre ami Contreras.
Oui. Est-ce qu'on a un plan pour le ramener derrière le marbre? Ça, j'en doute.
Moi, j'en doute aussi.
Oui. Marc, évidemment, petit coup d'œil. Tu sais que j'aime ça lorsqu'on passe d'un stade extrême à un autre. On passe de Saint-Louis à Boston. L'an passé, Marc, 13 de ses 20 coups de circuit à l'étranger. Puis un MPP à l'étranger de 824. Penses-tu que les Red Sox n'ont pas regardé ça quand tu fais son acquisition?
Non, c'est clair. Puis Saint-Louis, c'est reconnu, là. Oui. Bon, même si Maguire a connu du succès là-bas. C'est ça. C'est pour ça que je disais tantôt, je pense que c'est un bon mariage qu'il soit au Fenway Park la moitié du temps. Le Monstre Vert peut être très bénéfique pour un gars comme Contreras.
Oui, et effectivement. Puis je vais finir, Marc, le côté transaction. Moi, ça m'a étonné. Matt Strom qui quitte Philadelphie. C'est une flexibilité qu'on avait chez les Phillies avec Malmström qu'on pouvait utiliser de la sixième à la neuvième manche. Toutes sortes de situations. Moi, à un moment donné, je le voyais comme partant. Par contre, évidemment, c'est pas une Velocita 95 dans le cas de Malmström. C'est pas le profil du genre de lanceur qu'on veut en relève dans le baseball moderne. Il retourne à Kansas City. C'est une équipe, c'est une organisation qu'il connaît. Donc, mais ça me surprend quand même que les Phillies aient décidé de la.
C'est surprenant parce que tu as l'impression qu'il faisait partie vraiment des meubles, des plans. C'est un gars qui était l'homme à tout faire. Tu peux le mettre en fin de match, tu peux le mettre en milieu de match, tu peux l'utiliser comme partant de temps en temps. C'est vraiment, tu sais, une belle polyvalence que beaucoup d'équipes apprécient. On a entendu des choses. Est-ce qu'ils s'entendaient moins un peu avec le personnel entraîneur? Ouais. Certains disent qu'on voulait. T'sais, alléger un peu la masse salariale de ce côté-là. Il y a tout ça. Regarde, il est plus là. Il est parti. Les Phillies doivent regarder ailleurs maintenant pour un autre releveur, peut-être un autre releveur polyvalent. Ouais. Ça reste à voir. Mais Alain, il va falloir aussi, là, on en parlera peut-être, mais on va prendre un receveur aussi à Philadelphie à un moment donné. Là.
OK, oui. Oui. Là aussi, Marc, si Real Muto n'a pas signé, c'est une question d'année. Moi, dans le cas de ces joueurs-là, là, moi, dans ma tête, c'est le nombre d'années. On veut gagner le gros lot à long terme. Écoute, il y a de moins en moins d'équipes.
Mais pourtant, Alain, moi, tu sais, un gars comme Real Muto, tu lui dis, OK, garde, tu veux pas aller, mettons qu'il veut 5 ans. On spécule, là, tu veux aller 5 ans. Ouais. Moi, je vais t'en donner 2, mais je vais te donner, mettons, un 35 par année. Tu sais, un peu les max Scherzer de ce monde. Ça n'intéresse pas des joueurs, tu penses, un offre comme ça?
Ben jusqu'où tu es prêt à aller, c'est ça, pour compenser le manque d'années. C'est évidemment.
Parce que là, après ça, tu peux étaler ça sur 10, 12 ans, là, comme ça semble être la mode. Puis, d'ailleurs, ça me surprend que les équipes le font pas tant que ça encore. Je sais que les Dodgers mènent le monde là-dedans. Là, parce que après la prochaine convention collective, peut-être que ça va être un élément qui va être, je dirais pas éliminé, mais qui va pouvoir être un peu plus structuré pour qu'on puisse. Tu regardes, évidemment, le contrat de Shohei Ohtani actuellement, ben 2 millions par année. Fait que ça te permet d'aller chercher pas mal de. Ça donne la flexibilité, c'est ce que je veux dire. Là.
Exact.
Alors, on verra ce que ça va donner, mais ça me surprend quand même que des équipes. Je sais que les Blue Jays l'ont fait, là, je pense, avec Dylan Cease, entre autres choses. Avec Vlad Guerrero dans son dernier contrat, mais. Est-ce que c'est quelque chose qui va peut-être être un peu plus, comme j'ai mentionné, là, structuré ou limité éventuellement?
Oui. Bon, ça nous mène à la carte de la semaine. Présentation de cartes Trade Union. Dépôt.ca, votre détaillant de cartes sportives et non sportives. Plus de 60 000 articles en vente sur eBay et une cote parfaite de satisfaction à 100 %. On jette notre dévolu sur l'ancien instructeur des Blue Jays de Toronto, Don Mattingly, qui a décidé de quitter l'équipe lors de la carte 1984. C'est l'année où il a, commencé là, à excéder au premier but avec les Yankees de New York. Et par la décennie suivante, il est un excellent frappeur. Des motos ont fait en sorte que sa production a baissé ces dernières années. Mais pendant 4-5 ans, Marc, c'était tout un frappeur qui a profité amplement du Yankee Stadium, oui. Mais un élan, c'est ton époque, tu pourras nous en parler, peut-être que tu as essayé d'imiter. La carte numéro 248 de la série Don Ross de 1984, cette série comptait plus de 600 cartes. Et dans le cas de Mattingly, si vous voulez avoir la liste au complet, commencez tout de suite. 15 000 cartes qui ont été distribuées pendant dizaines d'années comme joueur. Il a pris sa retraite après la saison 95. Malheureusement pour lui, c'est l'année avant que les Yankees commencent leur série de 4 séries mondiales en 5 ans. Là. Donc, dans le cas de Mattingly, Marc, est-ce que c'est un élan que tu as essayé de reproduire? Il y avait Ken Griffey, évidemment, que tout le monde essayait d'imiter, que tu as vu de proche. Mattingly, est-ce qu'il faisait partie de ce groupe-là?
Non, pas dans le cas de Mattingly. Mais tu sais, oui, il avait un très bel élan. Puis d'ailleurs, moi, je pense qu'il doit être au temps de la renommée, personnellement. Là. Pas parce qu'il ne frappait pas 50 circuits par année que c'était pas un bon frappeur, mais ça va être pour un autre débat. Là. Très élan fluide, mais Alain, baseball IQ, là. Le QI baseball de ce gars-là. Son jeu en défense, c'était tout un joueur de balle. C'était tout un joueur. Tu sais, Donnie Baseball, là, c'était pas pour rien. Ouais. Moi, j'ai adoré ça. Mais tu sais, Alain, moi, j'étais frappeur gaucher aussi. Mais Mattingly était un lanceur gaucher. Tu sais, il lançait de la gauche, comme Ken Griffey Jr. Ouais. Alors, si t'es frappeur gaucher pis ta main forte, c'est la main qui est dans le haut, pas pareil quand ta main est ta main forte. Tu sais, par exemple, moi, bon, j'ai parlé de George Brett plusieurs fois, là. Tu sais, George Brett, lui, il lançait de la droite puis il frappait de la gauche.
Ouais.
Fait que ça, c'était plus des élans qui, dans mon profil, me ressemblait plus. Ouais. Pas que je frappais comme du Brett, pas du tout, là, mais que j'essayais d'imiter. Tim Raines, George Brett, des gars comme ça. Alors que des Mattingly et des Ken Griffey, ma foi, c'était d'un naturel. Ouais. En tout cas, ça pour dire que j'ai beaucoup apprécié Mattingly comme joueur. C'était vraiment dommage les problèmes de dos en fin de carrière, Alain, parce que
j'ai
l'impression qu'il aurait pu en donner encore pas mal plus.
Ouais. Il y a Wally Joyner aussi à cette époque-là, tu t'en rappelles, Marc, dont on parlait beaucoup, John O'Leary, ce sont des frappeurs crochets là, dont les élans ont été maintes fois repris ou qu'on a tenté de reprendre chez les instructeurs.
Le baseball, c'est plus qu'un divertissement. Après des mois d'inactivité, on veut bouger sur des terrains de balle. Rendez-vous au baseballquebec.com. Débranche tout et on va jouer dehors. Ce sera ton été de baseball.
Nous vous invitons, surtout les jeunes, à lire, évidemment, et pourquoi pas, avec un thème central du baseball, les livres pondus par notre ami Bob McDuff de la série Baseball Bob. Allez au site internet de Baseball Bob, www.baseballbob.ca, et sa dernière œuvre, c'est un livre à colorier, excellent moyen de s'initier à la lecture et s'amuser, évidemment, avec le baseball comme thème central. Notre profil de la semaine, André Suarez, on en a parlé tantôt. Marc, il n'y a rien à envier aux autres lanceurs de très grande qualité. Il a été bon partout. C'est pas une surprise quand il est arrivé à Philadelphie. Tu regardes son profil à partir du moment où il a signé son premier contrat avec les Phillies. Et là, Marc, il faut remonter en 2012. Il a passé ses trois premières années dans les ligues vénézuéliennes, les ligues de recrues. Malheureusement, on est sorti de là en raison de la situation politique du Venezuela. Mais il a continué à exceller à tous les niveaux. Les blessures ont fait en sorte qu'il a lancé moins. Il n'a jamais eu 30 départs au cours d'une année. Mais Marc, quand il est au monticule, regarde, il est aussi bon que Zach Wheeler, il est aussi bon qu'Aaron Nola, que Sanchez. C'est pour ça que les Phillies ont été établis favoris par plusieurs en début de saison dernière, là, avec un personnel de partant... une profondeur qui est presque inégalée dans le baseball majeur. Donc, pour ça, tu disais tantôt, Suarez, ce gars-là devrait théoriquement susciter l'envie de plusieurs équipes.
Et Alain, si j'avais mis ces statistiques-là. Mettons, c'est 8 saisons. Là, tu mets ces statistiques sur un tableau, là, tu dis qui est ce lanceur. Là, tu vas regarder ça, tu vas dire, hey, un instant, là, 53-37.
Ouais.
3,38, c'est la moyenne de points mérités.
Ouais.
705 retraits sur des prises. Je veux dire, contre 240 buts sur balle. T'sais, toute la ligne, la fameuse ligne au complet de statistiques, tu disais, mais ma foi, ce gars-là, c'est un lanceur de premier plan, c'est un lanceur. Ben, c'est ça. C'est comme si, je sais pas, écoute, le gars, il est bon. Il est efficace. Je veux dire, t'as beau regarder ça de n'importe quelle angle. Tu sais, tu parles d'un gars qui n'a pas lancé 30 départs, mais tu sais, on parle de 29, 22, 27, 26. Fait que c'est pas 12, 13, 12, 13.
Non, c'est ça.
Fait que, écoute, est-ce que lui, justement, et son agent voit ça et dit, regarde, nous, là, on a besoin de l'argent d'un gars. Parce que tu as parlé de nom tantôt, tu as fait une comparaison, c'est exactement ça, là, je veux dire, ce gars-là.
Ben oui.
Le gars, il va signer, là, il va rendre le personnel de partant pas mal meilleur, là. Juste par sa présence. Fait que,
ouais.
Et pas le nom le plus sexy. Là. C'est pas le nom que c'est pas un Dylan Cease que tout le monde parle. Bon. Mais en termes d'efficacité, là, c'est vraiment là. Je sais pas si les équipes pensaient d'avoir justement un bon deal avec lui, mais chose certaine, c'est un rendement qui fait partie d'un lanceur numéro 1, numéro 2 d'une formation.
Puis en plus, Marc. Et ça, on le dit, notre ami Alex Agostino, c'est un excellent coéquipier. C'est ce qu'on dit, c'est ce qu'Alex nous a mentionné. C'est un gars dans le vestiaire qui est très, très apprécié.
À quel point c'est important en plus, cet aspect-là, là, tu sais.
Bon, voilà. Écoute, restez les Phillies. On a parlé de Real Muto tantôt. Vulture de centre, Brandon Marsh. Écoute, contre les gauchers, c'est difficile, on va le dire, là. Puis, je ne sais pas si c'est à long terme ce qu'on va vouloir chez les Phillies. Je pense qu'on va vouloir quelque chose de plus constant à l'attaque. Le nom de Wes Robert a été associé un petit peu. Les Mets aussi ont besoin de peut-être quelqu'un qui frappe un peu plus au champ centre. Puis toi, écoute, Wes Robert, avec les White Sox, ne fera pas partie de l'avenir.
Non, moi, je pense que je pense vraiment que Wes Robert ne sera pas avec les White Sox. Et je suis pas mal sûr qu'il va se retrouver dans la division S de la Ligue nationale, moi. Moi, je le vois avec les Mets.
Mm-hmm.
Mais son nom est associé aux Phillies. Tu sais, c'est un gars qui, tu sais, Alain, c'est un gars extrêmement talentueux. Bon, il était blessé. En termes d'attitude, c'était pas parfait non plus. Fait qu'est-ce que c'est ça, parfois, qui fait hésiter? Mais tu sais, encore une fois, Alain, nouvel environnement, nouvelle organisation, entouré de vétérans, c'est peut-être ça que ça lui prend, là, parce qu'on sait que les White Sox, ça a été, bon, depuis qu'il était avec les White Sox, là, les montagnes russes, là, tu sais, je veux dire, c'était... Il est arrivé lorsqu'il y avait les bonnes équipes, mais whoop, il a vu là, l'équipe se vider, puis bon. Fait que je suis pas sûr que lui, ça l'intéresse encore là, de d'être autour, mais c'est un joueur étoile. C'est un joueur qui pourrait, il a le talent pour être un joueur étoile, mais imagine-toi si ça va avec les Phillies ou les Mets, puis ça débloque à ce niveau-là. Donc, moi, je m'attends à ce que Wes Robert se retrouve dans la division S de la Nationale.
Marc, on a parlé un petit peu depuis le début de ce balado un peu de l'importance de ce qui se passe dans le vestiaire. Là, évidemment, on n'est pas là. Mais on va parler des deux clubs de New York. Depuis une couple d'années, il y en a plusieurs qui ont fait le trajet de l'autre côté de la rivière du Yankee Stadium du Bronx au quartier Queens. Ils ont passé des Yankees aux Mets. Il y a eu Soto. Là, cette année, Weaver, Devin Williams, Clay Holmes. Ça commence à en faire pas mal. Est-ce que c'est strictement une question d'argent? Puis là, je pense que la question est légitime compte tenu des commentaires des propriétaires des Yankees depuis une couple d'années. On n'a plus envie de payer la taxe de luxe. Les Dangereux, en passant, en ont payé une galette là, cette année. Là. C'est quoi, 160 quelques millions?
Ouais.
Pas grave, on a gagné deux séries mondiales de suite. Mais puis on fait des profits quand même. Mais du côté, c'est quand même curieux, Marc, de voir comment cette tendance-là nous fait sourciller un peu. Celle des joueurs qui quittent les Yankees pour aller vers les Mets de New York. Je ne sais pas ce que... Tu penses de ça, Marc?
Ben écoute, Weaver l'a pas eu facile l'année dernière. Williams non plus, avec les Yankees. Je sais pas si le standard est très élevé chez les Yankees. Puis je pense, tu sais, les médias, les partisans te laissent savoir quand ça va pas bien. Et je pense que l'organisation aussi. Pas facile de jouer pour les Yankees de New York, là. Donc, tu sais, faut que tu aies la couenne dure, là. Puis Judge le sait, il le vit, puis ça va bien avec lui à ce niveau-là, mais c'est pas fait pour tout le monde. Mais Sonny Gray a été assez... Lorsque, rappelle-toi, la transaction qui a amené Sonny Gray au Red Sox, qui a mentionné que moi, c'est détesté jouer pour les Yankees. Bon, c'est pas le même pour tout le monde, pas du tout. Mais c'est pas fait pour tout le monde, donc nécessairement d'aller jouer pour les Yankees. Puis c'est pas que New York qui nous fait peur, parce que les gars s'en passent des Yankees aux Mets. Mais oui, Alain, je dirais pas qu'il y a un guise sous roche, mais je vous dirais qu'il y a une façon de faire avec les Yankees, que ça passe ou non. Puis dans ce cas-ci, il y a eu certains défis avec Weaver, on lui a fait confiance, ça a pas bien fonctionné en fin de saison. On sait que Williams, il en a arraché toute l'année, même si ça allait un petit peu mieux à la fin. Regarde, écoute, c'est... Mais il faut se poser la question. Mais moi, je pense que c'est pas évident. Mais Alain, une chose est certaine. Je regarde ce qui se passe avec les Blue Jays de Toronto.
Mm-hmm.
Je regarde les propos de Dylan Cease. Je regarde les propos de George Springer depuis qu'il est là.
Rogers? Donc,
exact. Je pense que les Blue Jays ont joué les bonnes cartes. C'est-à-dire que ils se sont assurés là, qu'on va traiter les joueurs là, plus que des rois. Là, dans le sens que et joueurs et famille. Je vais acheter famille parce que c'est vraiment là où on met l'accent. T'sais, parce que souvent, on va dire, on s'en va jouer au Canada. Puis là, tu sais, ils savent pas. Il y a beaucoup de gens, tu sais, malheureusement, là, pensent que le Canada, c'est bien différent, puis que c'est ici, puis c'est ça. Alors que les Blue Jays vont dire, non, regardez bien, là. On va signer le joueur, on va faire une transaction, mais quand vous allez venir, là, vous allez faire wow. C'est exactement ce qui se produit, là. Alors là, Toronto est devenu une destination hyper intéressante pour la plupart des joueurs, compte tenu de la façon dont, on traite les familles. Les joueurs et les familles. Donc, on s'est positionné là. Les Yankees, eux, se sont positionnés d'une manière X, c'est-à-dire on veut gagner, on veut faire ci. Pourtant, on n'a pas gagné depuis un sacré bout de temps, là. Mais bon, ça va être une autre question. Mais tu sais, les joueurs ont changé. Tu sais, ça change. Les familles, c'est devenu encore plus important pour les joueurs d'être bien traités, d'être bien ici. Oui, gagner, c'est important, là, effectivement, mais... Il y a des générations, ça change. Puis je pense que les Blue Jays se sont bien adaptés, alors que peut-être les Yankees se sont un petit peu moins bien adaptés à ça. Je suis pas en train de cogner sur le clou des Yankees. Je pense qu'il y a des joueurs qui rêvent d'aller jouer là. Puis... Mais tu sais, ça a plus le wow que c'était comme.
Ouais.
Je veux pas comparer avec le Canadien de Montréal, mais tu sais, les 25 Coupes Stanley, ça fait un bout là, qu'on a gagné une. Là,
ben fait
à un moment donné, ça... Tu sais, faut changer, faut se mettre à jour, puis j'ai l'impression que parfois les Yankees, peut-être, se sont pas mis nécessairement à jour. C'est pas guère mieux avec les Mets, là. Alain, chaque année, t'as l'impression qu'il se passe quelque chose de avec les Mets de New York, mais c'est ça. Fait que, il y a pas juste, Alain, ce qui se passe sur le terrain. On en a parlé un petit peu plus tôt, mais c'est l'ensemble de l'organisation, là, qui est important.
Donc, autrement dit, Marc, pour revenir aux Yankees, puis c'est pas juste une question d'argent à ton sens. Là.
Non, pas du tout.
C'est ça.
Pas du tout.
Marc, au cours du... le mois dernier, Joe Maddon est toujours actif sur les réseaux sociaux. Il y a eu un commentaire, moi, qui m'a fait sursauter à la suite de l'embauche par les Giants de San Francisco de leur nouveau gérant, Tony Vitello. Vitello est issu des rangs universitaires. On l'a mentionné souvent ces dernières années avec les changements dans le baseball mineur, moins d'équipes, avec le changement sur la façon de recruter des joueurs et la formation qu'on a dans les universités américaines, puis tu en es témoin, tes fils sont là-bas. Donc, on a une grande qualité de formation maintenant côté baseball dans les universités américaines. Ça s'améliore constamment. Et là, Joe Maddon, qui a trouvé ça insultant de voir Vitello être embauché directement des rangs universitaires. Moi, ma réaction par rapport à ça, je trouve les propos de Joe Maddon, je vais te le dire, méprisants par rapport à des gens qui en ont une expertise. Tu comprends? Puis j'ai hâte de t'entendre là-dessus parce que toi, t'as vécu le spectre, je te dirais, très, très large de ce qui se fait dans le baseball par tes fils. Toi aussi, t'es passé par là, t'as joué, puis t'es encore impliqué, t'as vu l'évolution, etc., etc. Ben, moi j'ai trouvé ça méprisant. Puis je pense, chapeau aux Giants de San Francisco d'avoir vu plus loin. Puis j'espère qu'on va profiter de cette expertise-là qu'on a acquise dans les rangs universitaires. Là, Marc, je te laisse aller parce que j'ai très hâte d'entendre ce que tu as à dire.
Écoute, premièrement, moi je n'haïs pas Joe Maddon. Non, c'est une bonne tête de baseball.
Ouais.
C'est pas du tout là où je veux m'en aller. Mais tu sais, Alain, il y a une certaine époque, là, il fallait que tu trimes dur pour avoir une job. Ce que je veux dire par là, c'est que si tu veux être un gérant du baseball majeur, là, tu t'en tapais des années dans les ligues mineures, des autobus, puis des ligues des recrues, du A, du 2A, du 3A, puis du C, puis du ça. Tu sais, je veux dire, moi, à mon époque, j'étais joueur, là, t'avais beau être, bon, je dirais, il y avait peut-être l'exception, là, mais encore là, tu sais, t'allais te taper un 3-4 ans dans les ligues mineures, là. T'sais, même si t'étais un excellent joueur, un choix de première ronde, là, c'est bien, bien rare que tu... Fait qu'il fallait que tu, t'sais, il fallait que t'ailles à l'école à la dure. Là, aujourd'hui, bien évidemment, les équipes, t'sais, tu repêches un gars puis il est dans le baseball majeur dès l'année suivante. Mais dans le cas de Joe Maddon, ça a mal vieilli son affaire. Tu sais, c'est un joueur, c'est-à-dire un gérant qui se dit, voyons donc, là, moi, j'ai travaillé tellement fort pour avoir mon poste dans le baseball majeur. Puis non seulement j'ai travaillé fort, mais j'en avais besoin de ces expériences-là pour m'amener à être un joueur. Alors que lui, il était au niveau universitaire. Oui, il gagne, puis pouf, il se retrouve dans le baseball majeur. Fait que, tu sais, à quelque part, je peux comprendre, tu sais, que de dire que, ouais, ben ça a changé, mais... Il faut évoluer, Alain. Le baseball a vraiment changé au cours des 10, 12, 15 dernières années. C'est plus ce que c'était dans mon temps que moi, je jouais. Alors, il faut s'adapter. La technologie est arrivée. Les statistiques avancées sont arrivées. Regarde, même les statistiques avancées, Joe Maddon n'est pas pour ça. Tu sais, je veux dire, non, mais tu comprends. C'est un peu de la vieille garde. C'est pas une mauvaise tête, mais pas du tout. Là. Moi, c'est un gars, je pense que je donnerais mon équipe à lui, puis je pense qu'il ferait du très, très bon travail. Ouais. C'est juste un autre style complètement. Là. Alors là que tu arrives avec un gérant qui est beaucoup plus moderne. Puis chapeau, moi aussi, en passant aux Giants. Chapeau de faire en sorte qu'on va ailleurs, on est créatif. On fait pas la même chose que les 29 autres équipes. On va ailleurs, on essaie quelque chose. Peut-être qu'on va s'enfarger là-dedans, mais peut-être que ça peut être un sacré beau succès aussi. Donc, puis je pense qu'avec Buster Posey à la tête des Giants, ça a été probablement très réfléchi, cette affaire-là. Donc, tu sais, Alain, on l'entend, là. Tu sais, t'as la vieille garde, puis qui aime pas les nouveaux changements, puis qui aime pas la façon de faire d'aujourd'hui. Puis c'est correct. C'est correct. Tout le monde a droit à son opinion. Mais je pense, dans ce cas-ci, que Joe Maddon, il l'a raté, là. Il l'a raté à ce niveau-là. Mais il a le droit à son opinion.
Oui, oui.
Moi, je pense juste que, tu sais, si moi j'avais embauché un nouveau gérant, ben j'écouterais certainement un gars comme Vitello. Je vais l'écouter, qu'est-ce qu'il a fait, pourquoi il a eu tellement de succès, puis moi écouter les arguments d'un Joe Maddon, par exemple. Puis après ça, je vais me faire une tête, puis là, je vais décider. Je ne dis pas qu'un est meilleur que l'autre, mais pas du tout. C'est très, très, très différent. Mais je trouve que dans les propos de Maddon, il aurait pu se garder une petite gêne parce que c'est une nouvelle façon de faire que lui n'est pas habitué. Puis au lieu de dire, ben regarde, on va regarder ce qu'il va faire, on va analyser dans les deux prochaines années ce qu'il va faire, ben c'est comme s'il l'a mis en dessous d'autobus puis c'était pas bon. Tu sais, fait que c'est ça. Je trouve qu'il a été un peu dans un extrême. Mais tout ce qui se passe, est bon pour le baseball. Ça, c'est ça, je pense, qui est important.
Marc, tu trouves pas ça curieux que ça vienne d'un gars comme Joe Maddon, qui pourtant a été pendant longtemps dans une des organisations les plus avant-gardistes du baseball majeur, des défenses adaptées, l'ouvreur. C'est lui qui était le gérant des Rays quand tout ça est arrivé. C'est ça, moi, que je...
Ouais, pourtant, non, mais c'est ironique. Ouais, t'as raison, c'est ironique d'entendre ça. Puis, écoute, regarde, mais lui, lorsqu'il parle, il veut faire bouger les choses, il veut faire réagir, puis il est rendu de ce côté-là, mais je pense qu'il a manqué quand même un peu de tact là, dans ses propos.
Bon, Marc, on va terminer. Une nouvelle triste au cours de la dernière semaine, puis je vais te laisser parce que tu l'as connu, Claude Pelletier, qui a été recruteur au Québec pendant de nombreuses années, puis évidemment que tu as connu de très, très proche. Je l'ai déjà rencontré, un charmant bonhomme, un homme de baseball. Bref, Marc, c'est une
perte. Écoute, moi puis Claude, c'est sûr que tu sais... J'avais un lien privilégié avec Claude. Claude Alain, il n'était pas un dépisteur lorsque j'ai été mis sous contrat. Et je l'explique rapidement l'histoire, là, c'est que moi, j'ai été courtisé par les expos puis quelques équipes, puis j'avais mentionné que je voulais signer avant telle date parce que je partais pour les Jeux olympiques. Bon, en tout cas, je vous mets en contexte. Claude, il m'appelle, puis il se présente comme Claude Petit. Évidemment, il dit « Écoute, je suis un bird dog ». De l'organisation des Dodgers. Ça marche quoi, ça en hiver, un bird dog? C'est quoi ça? J'avais jamais entendu l'expression. Il dit, écoute, je suis un ami de l'organisation. Il était très, très près de Ron Perenowski. qui était l'instructeur des lanceurs des Dodgers à l'époque. Et Ron Peronoski avait dit à Claude, qui n'est pas du tout dans le baseball, là, mais il avait dit, si jamais tu entends parler d'un joueur de baseball, appelle-nous. Et c'est ce qui est arrivé, c'est Claude a appelé Ron Peronoski qui a dit, hey, il dit, moi, là, j'ai un joueur ici au Québec, là, puis il dit, ah ouais, OK. Alors, ils ont fait venir le dépisteur de l'Est des États-Unis, qui était Dick Teague à l'époque. Il dit, ben, on va amener Dick Teague, puis on va aller faire, on te croit, Claude, on fait confiance. Fait que Dick Teague s'en vient à Québec me voir jouer. Puis là, il aime ce qu'il voit. Fait que là, je me mets à jaser avec Dick Teague. Claude est toujours présent, puis très, très proche de l'organisation. Puis là, à un moment donné, ben, Claude m'avise qu'on va faire venir un cross-checker. Là, imagine, là, le bird dog, dépisteur, là, un crush checker. C'est quoi un crush checker? Je ne le savais pas à l'époque. Là, on sait maintenant, Alex Agostino en était un. Mais c'est un gars qui vient valider l'idée d'un dépisteur. Fait que là, le crush checker s'en vient. Puis là, on me fait une offre. Puis bon, évidemment, je signe avec les Dodgers. Et ce que j'aime de cette histoire-là, c'est que lors du souper, là, lorsque j'ai signé mon contrat, on avait un souper, puis il y avait les trois membres des Dodgers. Ben, on a offert à Claude un emploi comme dépisteur. On était convaincus, et à partir de là, ben Claude a amorcé sa carrière de dépisteur, puis il a signé Rick Gagné, puis Jonathan Malo, puis Ivan Nakarata, puis plusieurs autres. Là, et d'ailleurs, on a vu les images défiler.
Ben oui.
Il a connu une carrière extraordinaire et avec les Dodgers, par la suite, un peu plus tard, avec les Mets de New York. Ben Claude était devenu une personne hyper, hyper respectée partout au Québec. Il jasait avec les familles, jasait avec les joueurs. Puis il a été tellement bon. Puis tu sais, donc, moi puis là, on a toujours eu cette connexion-là. Puis il a fait un très, très, très beau témoignage sur moi lorsque moi, j'ai été intronisé au Temple de la renommée du baseball québécois. Fait que, tu sais, c'était une lourde perte. J'ai écrit à ses enfants. Mes gardes et Claude a été très, très bon pour le baseball. Puis je pense que c'est important qu'on souligne aujourd'hui.
Tout à fait juste. Marc, merci pour ce témoignage qui, je pense, reflète pas mal ce qu'on a vu là, sur les réseaux sociaux. Là, à la
et puis en de, passant, de là, ce qui est drôle, Claude, là, pas Claude, mais Alain là-dessus, mais dans le livre de Mike Piazza, Mike Piazza, comme tu sais, est un joueur autonome, il a signé, c'est-à-dire qu'il a été repêché en 62e ronde.
C'est ça.
Mais à un moment donné, il est chez eux, puis un dépisteur est supposé venir le voir jouer dans un parc près de chez lui. Puis finalement, le dépisteur en soi avait décidé d'annuler sa présence. Fait que ça avait mis Mike Piazza en beau fusil. Mais c'est Dick Teague, parce que Dick Teague, qui était le dépisteur de l'Est, Nord-Est américain, donc couvrait aussi dans l'État près de Philadelphie où Mike Piazza a grandi. Mais Dick Teague, au lieu d'aller voir Mike Piazza, a pris l'avion et est allé à Montréal me voir. Fait que Mike Piazza, dans son livre, il l'écrit, il dit, moi, je suis posé de recevoir mon dépisteur des Dodgers, puis il m'annule ça parce qu'il est parti à Montréal voir un certain joueur. Ce joueur-là, c'est moi. Alors, c'est pour ça que les liens avec Mike Piazza ont commencé très, très tôt, parce que par la suite, on s'est retrouvés les deux avec les Dodgers, puis ça a été le premier joueur auquel j'ai fait mon premier contact, parce que lui aussi était en retard au camp d'automne. En tout cas, je donne des petites histoires comme ça, il y en a plusieurs, mais tu sais, il y a des belles relations, puis Claude Pelletier est devenu très près aussi du clan Piazza plus tard, parce que Claude s'est rapproché de l'organisation des Dodgers, puis était devenu une personne importante. Ouais. Alors, ça pour dire que ça a été vraiment des très, très, très belles années, des merveilleux souvenirs que j'ai de Claude Pelletier.
Ben, merci encore une fois, Marc, pour cette anecdote et ce témoignage. Ça met un terme à ce balado compte complet 2025. J'espère que cela vous a plu tout au long de l'année. Évidemment, on ne sera pas très, très loin. On va se revoir aussitôt que janvier, dans quelques semaines. C'est dans moins de 2 mois que les camps d'entraînement commencent. On remercie Martin Villeneuve d'avoir été avec nous tout au long de 2025. Martin, qui est le chef d'orchestre de ce balado, c'est lui qui permet de décorer ce balado pour qu'il soit visuellement potable. Quant à moi, Alain Huzereau, évidemment, avec Marc Griffin, nous vous souhaitons de passer de très, très belles fêtes, du bon baseball. Marc, je te laisse quelques secondes pour souhaiter la joyeuse fête à nos à ceux qui nous regardent aussi.
Ben oui, absolument. Non seulement la joyeuse fête, mais pensez à une très belle année 2026. Et évidemment, quoi de plus que de vous dire santé, bonheur pour la prochaine année. Merci de nous suivre aussi. On a une très, très belle année 2025, Alain et Martin, notre trio, et On se souhaite donc une belle année 2026 et on espère vous revoir aussi en grand nombre en 2026.
Passez bonne fête tout le monde. À la prochaine.
Balado Compte Complet vous a été présenté par Plan de Match à Boucherville et au Saguenay, fiers partenaires de votre passion. Et Lester's, maître du smoke meat et des hot dogs depuis 1931.